Vous écoutez, on lit pour vous.
La crise de la quarantaine, version travail. Un texte d'Isabelle Dubuc paru le 8 octobre 2025 dans la presse. La crise de la quarantaine ne touche pas que la vie personnelle. Les remises en question professionnelles seront déterminantes pour la fin de carrière et même la retraite, révèle le rapport de l'Institut du Québec « Les enjeux cachés de la mi-carrière », portrait des travailleuses et travailleurs québécois de 45 ans et plus. Les carrières s'étirent. Si certains mouvements font miroiter la retraite à 45 ans, dans la réalité, c'est tout le contraire qui se produit. Les 45 ans et plus sont plus nombreux sur le marché du travail qu'il y a 40 ans. Ils représentent 42 % des travailleurs contre 24 % en 1984. Les Québécois prennent leur retraite, en fait, plus tard. Depuis 1998, l'âge moyen de la retraite a progressivement augmenté jusqu'à 64,5 ans en 2024 et se rapproche maintenant de l'Ontario, qui a une moyenne de 65,1 ans. Selon les données de Statistique Canada adaptées par l'Institut de la statistique du Québec, l'âge moyen de la retraite en 1978 était de 66 ans et a progressivement diminué jusqu'en 1998 pour atteindre 58,4 ans. Malgré les publicités marquantes du milieu des années 1980, la Liberté 55 n'a jamais été pour la moyenne des Québécois. Depuis 1998, l'âge moyen est reparti dans l'autre direction. Cette tendance à repousser la retraite s'explique par l'effet de décalage dans les parcours de vie, observe en entrevue avec la presse Emna Braham, présidente directrice générale de l'Institut du Québec, IDQ, qui axe ses études sur les enjeux socio-économiques de la province. On étudie plus longtemps, on commence notre carrière plus tard, ce qui fait que tout est un peu retardé. Les enfants, l'achat d'une maison, la fin du paiement de l'hypothèque et le moment où l'on a suffisamment économisé pour prendre sa retraite. On est aussi de plus en plus nombreux à occuper des emplois de bonne qualité ou moins physiques, plus épanouissants, poursuit-elle. Ce qui fait qu'on a envie de rester sur le marché du travail. Ce décalage s'observe également chez les immigrants, notamment parce qu'ils ont dû redémarrer leur carrière en arrivant au Canada, souligne le rapport. Les carrières sont moins linéaires qu'autrefois. Les personnes qui changent de carrière par choix dans la quarantaine ou dans la cinquantaine sont plus susceptibles de rester en emploi passé la soixantaine. Un enjeu moins rose influence les Québécois à rester en emploi. L'endettement. Chez les 45-54 ans, plus de la moitié, 55 % ont encore un prêt hypothécaire à rembourser. En 2005, ils étaient 38 % dans ce groupe. À l'inverse, la santé peut inciter les travailleurs à quitter leur emploi plus tôt que prévu, comme ce fut le cas pour 26 % des Québécois. L'âgisme, plus dangereux que l'IA. Les préjugés sur l'âge sont plus dangereux que les robots, conclut le rapport de l'IDQ. À partir de la quarantaine, les préjugés sur l'âge se jouent déjà. Et ce n'est pas le manque de compétences numériques des travailleurs de 45 ans et plus qui sont vraiment un frein à leur mobilité et aux perspectives de carrière, mais les perceptions des employeurs à ce sujet, analyse la co-autrice du rapport Soulaima El Ashkar, économiste principale à l'IDQ, en entrevue avec la presse. Les sondages ont montré que les employeurs sont plus réticents à prendre des travailleurs plus âgés pour des postes qui ont un contenu technologique quelconque, poursuit-elle. Par contre, quand ils les prennent, ils réalisent qu'ils sont aussi compétents, sinon plus que d'autres, et surtout parce que les nouvelles technologies, par exemple avec l'IA, sont assez conviviales et ne requièrent pas de codage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les travailleurs de plus de 55 ans ne sont pas particulièrement menacés par l'automatisation et l'IA. c'est plutôt la génération Z qui l'est par le remplacement de certaines tâches, souvent des postes d'entrée en début de carrière. On a fait une analyse pour voir qui sont les travailleurs québécois vulnérables à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que non seulement leur emploi est à risque d'être automatisé, mais aussi qu'ils auraient de la difficulté à s'adapter, relate Emna Braham. Ce qu'on voit, c'est que les travailleurs de plus de 55 ans ne sont pas surreprésentés dans ce groupe-là, notamment parce qu'ils sont capables de se replacer. Ils ont un niveau d'expertise qui fait que lorsqu'une partie de leur tâche peut être remplacée par la machine, ils peuvent retomber sur leurs pattes. Les plus de 55 ans représentent 24 % des emplois à risque, une proportion équivalente à la population active, 23 %. Si leur employeur leur offrait des formations après 50 ans, 44 % des travailleurs de ce groupe d'âge seraient prêts à prolonger leur carrière. Le verre incassable. Les femmes sont plus présentes que jamais dans le marché du travail québécois. Alors qu'il y a 40 ans, seulement 34 % des femmes de 45 ans et plus étaient en emploi, elles composent désormais 46 % de la main-d'œuvre. C'est la scolarité qui explique cette progression. À l'heure actuelle, le Québec a atteint la parité des diplômes universitaires. 25 % des Québécois, comme des Québécoises, ont décroché au moins un baccalauréat. En 1984, elles n'étaient que 4 % Les travailleuses plus scolarisées restent actives plus longtemps. 60 % des femmes de 45 ans et plus détenant un diplôme d'études universitaires sont actives sur le marché du travail, contre 26 % pour celles qui détiennent au plus un diplôme d'études secondaires, indique le rapport. Et ces femmes aspirent à plus. On a des cohortes de femmes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui sont tout aussi scolarisées que les hommes et qui, à cet âge-là, à la mi-carrière ou à la fin de carrière, aspirent à obtenir de hauts postes de direction, observe Emna Braham. Mais ce n'est pas encore le cas, malgré ces gains en éducation. Malgré le fait qu'on est arrivé à égalité, on voit que les femmes représentent 46 % de la main-d'œuvre, mais elles ne vont occuper que 34 % des postes de direction, tous secteurs confondus. Ça peut laisser un goût amer de ne pas atteindre les postes qu'on espérait atteindre à ce moment de notre carrière. Ça interpelle aussi les générations suivantes. Est-ce qu'elles vont être capables de percer ce plafond? Demande la PDG de l'IDQ. Les femmes de 45 ans et plus sont encore coincées entre leurs aspirations professionnelles, leurs adolescents et leurs parents vieillissants de qui elles doivent s'occuper. Pour de nombreuses femmes moins scolarisées, la fin de carrière peut s'avérer difficile. Après 55 ans, 32 % des travailleuses se retrouvent dans des emplois de faible qualité rémunérés au salaire minimum, contre 23 % des travailleurs du même âge. Des solutions chez les employeurs et gouvernements. Avec ce rapport, l'IDQ, le Comité consultatif pour les travailleuses et travailleurs âgés de 45 ans et plus, CC45+, et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale souhaitaient mieux comprendre les défis professionnels des 45 ans et plus, car l'économie québécoise a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Certaines mesures de politique publique donnent un coup de pouce, comme l'exemption de la cotisation de la RRQ pour les travailleurs âgés de 65 à 72 ans, qui a été mise en place en 2024. Cependant, le crédit d'impôt pour prolongation de carrière, dont l'âge d'admissibilité passe de 60 à 65 ans cette année, n'a pas créé une augmentation significative du nombre de travailleurs dans la soixantaine. Le rapport souligne que beaucoup de Québécois comprennent mal l'impact de l'impôt quand un travailleur prolonge sa carrière ou quand un retraité veut retourner travailler. La démystification de la fiscalité semble essentielle pour promouvoir efficacement la prolongation de la vie active au Québec, recommandent les chercheurs. Les employeurs aussi ont un rôle à jouer. Le travailleur senior ne doit pas être laissé sur le banc des joueurs, ignoré, sans défi, sans mandat, à attendre péniblement l'heure de sa retraite, comme l'illustre si bien l'un des personnages de la série avant le crash. On a beaucoup parlé de la nécessité d'allonger les carrières au cours des dernières années au Québec, parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre et plus de départs à la retraite. Mais on se rend compte que c'est un questionnement multidimensionnel, analyse Emna Braham. Il y a la fiscalité, la santé, les finances, mais il faut aussi regarder tout le parcours de carrière qu'on a tout au long de la vie. C'est ça qui va déterminer à quel point on est engagé, puis à quel point on a envie de poursuivre notre carrière un peu plus longtemps. L'engagement des Québécois en fin de carrière repose sur des besoins concrets, des projets stimulants, de la formation continue et la reconnaissance de leurs valeurs au sein des organisations, conclut la chercheuse. C'était « La crise de la quarantaine, version travail », un texte d'Isabelle Dubuc paru le 8 octobre 2025 dans La Presse.
Pendant qu'on a les yeux rivés sur les États-Unis, un texte de François Cardinal paru le 12 octobre 2025 dans La Presse. On ne s'étonne même plus de voir des policiers, les membres de la garde nationale et même l'armée débarquer dans certaines grandes villes américaines. On hausse les épaules en apprenant que l'administration Trump continue de s'attaquer aux journalistes et aux médias. Mais il serait naïf de croire qu'il n'y a qu'au sud de la frontière que les journalistes ont maille à partir avec les autorités. Ici même, un épisode d'abus survenu ces dernières années montre que le Québec n'est pas à l'abri des dérives des forces de l'ordre, capables d'arrêter un journaliste simplement pour avoir fait son travail. L'histoire à laquelle je fais référence n'a bien sûr aucune commune mesure avec ce qui se passe dans les villes américaines. Mais il s'agit tout de même d'un évident abus policier qualifié de grave par les tribunaux qui n'a pas eu l'attention qu'il méritait. Les événements troublants sont survenus à Gatineau en 2018. Ils concernent Antoine Trépanier, qui vient tout juste de se joindre à l'équipe de correspondants parlementaires à Ottawa de La Presse. C'est lui qui a fait le voyage avec Mark Carney à Washington ces derniers jours. À l'époque, Antoine était journaliste d'enquête à Radio-Canada. Il travaillait sur un reportage portant sur la directrice générale des grands frères grandes sœurs de l'Outaouais, Yvonne Dubé. L'intérêt d'Antoine pour cette dernière s'expliquait bien. Il avait découvert qu'elle avait dans le passé exercé le droit en se présentant faussement comme avocate. Une injonction avait d'ailleurs été émise, lui interdisant de continuer sa pratique. Or, cette information n'avait pas été transmise au comité d'embauche des grands frères grandes sœurs. Antoine voit là un sujet d'intérêt public. Il creuse, puis il contacte Mme Dubé à quelques occasions pour obtenir son point de vue comme il se doit. Que fait Mme Dubé ? Plutôt que de lui répondre, elle se précipite au poste de police de Gatineau pour déposer une plainte pour harcèlement criminel, simplement parce qu'elle avait reçu des demandes d'entrevue d'un journaliste. On s'imagine les agents, en pareilles circonstances, se regarder un peu perplexes, puis expliquer à la dame que les journalistes font leur travail et que celui des policiers n'est pas de les en empêcher. Mais non. L'agent Mathieu Lassalle-Boudria et son supérieur immédiat, le lieutenant Paul Lafontaine, ont suggéré à Mme Dubé de porter plainte. Et aussitôt fait, ils ont informé Antoine qu'il était arrêté pour harcèlement criminel, l'ont informé de ses droits et forcé à signer une promesse de comparaître assortie de conditions. Et tout cela sans mandat, sans enquête, sans aucun motif raisonnable. Heureusement, après l'arrestation, la DPCP a demandé un complément d'enquête et a conclu qu'aucun acte criminel n'avait été commis, de toute évidence. Mais je vous parle néanmoins de cette grave faute déontologique aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que la Cour du Québec vient tout juste de confirmer la décision rendue par le comité de déontologie policière qui déterminait que les policiers avaient dérogé au code de déontologie des policiers du Québec. Car voyez-vous, l'agent Lassalle-Boudria, promu depuis au grade de sergent, et son supérieur, le lieutenant Lafontaine, ont osé en appeler de la décision. La seconde, c'est que l'appel confirme ce qu'indiquaient déjà les grandes lignes de l'histoire. Ce n'était pas une simple erreur ponctuelle de jugement. Plutôt, tout cela révèle quelque chose de plus profond, une méconnaissance du rôle du journaliste, voire un malaise institutionnel devant le travail journalistique qui peut trop facilement être perçu comme une provocation, même par des représentants des forces de l'ordre. Imaginez, juste parce que Mme Dubé s'est présentée au poste en se disant harcelée, ils ont arrêté un journaliste quelques heures plus tard. Et ce, sans vérifier les éléments essentiels du dossier, sans parler aux témoins clés, sans même chercher à comprendre la nature de la démarche journalistique. Ils l'ont ainsi privé de ses droits et de sa liberté pour avoir posé des questions. Pourtant, faire respecter l'ordre et questionner l'ordre établi, voilà deux fonctions qui devraient cohabiter dans une société démocratique. Le travail journalistique repose sur des gestes simples. Poser des questions, chercher à comprendre, vérifier avant de publier. Ce sont des obligations déontologiques, non pas des gestes qui devraient être interprétés comme des menaces. Un journaliste qui frappe à une porte ne fait pas intrusion. Un journaliste qui appelle plusieurs fois quelqu'un ne harcèle pas cette personne. Il cherche à obtenir tous les points de vue avant de publier, tout simplement. Il ne remet donc pas en cause l'ordre pour déranger, mais bien pour obtenir la version des faits des personnes visées par ces enquêtes. Une autre chose que nous rappelle cette histoire, la liberté de la presse ne se mesure pas seulement à ce qu'on publie, mais aussi à la manière dont on laisse les journalistes faire leur travail. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ici aussi. Trop d'États-Unis dans les médias d'ici ? Véronique Yvon, sur les réseaux sociaux, puis Alain Reyes, dans la presse, ont fait part d'un même constat dernièrement. La couverture médiatique québécoise accorde une place disproportionnée à la politique américaine à leurs yeux. Madame Yvon a exprimé son malaise face à une américanisation de l'information, tandis que M. Reyes a dénoncé une dépendance médiatique qui transforme le public québécois en spectateur de la scène politique des États-Unis, plutôt qu'en acteur de sa propre démocratie. Je comprends leur point de vue, mais je ne suis absolument pas d'accord. J'avais d'ailleurs écrit sur la question en 2021, alors qu'il était question de protectionnisme américain et d'un possible shutdown. 4 ans plus tard, mon constat est le même. On couvre beaucoup les États-Unis, non seulement parce qu'ils ont un impact démesuré sur nous, mais aussi parce que les Québécois s'intéressent de très très près à ce qui s'y passe. C'était « Quand on a les yeux rivés sur les États-Unis », un texte de François Cardinal, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.
Babillard. Un texte de la rédaction paru le 22 août 2025 dans Virage. Le bonheur en hausse chez les 55 ans et plus. Bonne nouvelle, les 55 ans et plus se sentent un peu plus heureux ces jours-ci au Québec. Selon le plus récent sondage Léger, leur indice de bonheur atteint 76,1 sur 100, une hausse marquée par rapport à 2021. Et la plus élevée de tous les groupes d'âge. Ils sont 27% à se dire très heureux, soit près du double des 18-34 ans, et à peine 19% rapportent une détérioration de leur bien-être dans la dernière année. Résilience, sécurité financière, liberté retrouvée après la retraite. Quelles qu'en soient les raisons, ce niveau de bonheur contraste avec les reculs observés chez les 35-54 ans, plus affectés par les pressions de la vie active. Ce regain reste toutefois en deçà des niveaux pré-pandémiques. De 2008 à 2020, l'indice oscillait entre 77,9 et 79,8, puis la pandémie a provoqué une chute à 73,2 en 2021. La récente embellie est donc prometteuse, sans marquer un plein retour au sommet d'autrefois. Uber veut simplifier les déplacements des personnes aînées. Uber lance 2 nouvelles options pour répondre aux besoins croissants de mobilité des personnes aînées, notamment celles peu à l'aise avec les technologies. D'abord, un mode simple permet une utilisation plus intuitive de l'application avec une interface épurée, du texte agrandi et une navigation simplifiée. Ensuite, les comptes pour aînés permettent à un proche de configurer un compte, de réserver des trajets, de suivre les déplacements en temps réel et de recevoir des alertes. Selon Uber, il s'agit d'un pas vers une mobilité plus inclusive. 3 biographies qu'on a hâte de lire cet automne. Vallée, Olivier Bouc et Ismaël Oudassine. Jean-Marc Vallée, cinéaste audacieux, a marqué toute une génération avec Crazy, avant de conquérir Hollywood. Ce premier livre, consacré à la vie et à la carrière du regretté cinéaste, retrace son destin fulgurant à travers une cinquantaine de témoignages de ses proches comme de grandes stars. Récit Winterspoon, Denis Villeneuve, Vanessa Paradis. Écrit par Olivier Bourque et Ismaël Oudassine, le livre rend hommage à un créateur hors norme, disparu trop tôt. Édition Libre Expression. De combat et d'amour, Lisette Lapointe. Enseignante, journaliste, députée, mairesse, militante souverainiste et compagne de route de Jacques Parizeau, Lisette Lapointe a été au cœur de l'action politique lors d'une période charnière de l'histoire du Québec. 30 ans après le référendum de 1995 et 10 ans après la disparition de son époux, elle livre le récit personnel et politique de sa vie, marquée par l'engagement et l'amour, tout en portant son regard unique sur le Québec en transformation des années 1940 à aujourd'hui. Les éditions de l'Homme. 100 ans d'histoire, vous m'avez raconté le Québec, Jeannette Bertrand. Dans la foulée de l'initiative « Écrire sa vie », un appel à témoignages lancé aux personnes aînées en pleine pandémie, Jeannette Bertrand a reçu près de 2000 manuscrits. Elle s'est inspirée des thèmes les plus marquants, comme l'amour au temps du patriarcat, la religion, la famille, la mort, pour porter un regard intime et précieux sur l'évolution du Québec, avec la collaboration de l'historien Laurent Turcot. Édition Libre Expression. C'était « Babillard », un texte de la rédaction, paru le 22 août 2025 dans Virage.
Comment le cancer échappe au système immunitaire? Un texte de Richard Béliveau, paru le 24 octobre 2022 dans le Journal de Montréal. Des chercheurs ont fait l'étonnante découverte que les cellules de certains types de cancers échappaient à la destruction par le système immunitaire en se cachant à l'intérieur d'autres cellules cancéreuses. Comme leur nom l'indique, les immunothérapies anticancéreuses utilisent le système immunitaire de l'organisme pour combattre le cancer. Les médicaments d'immunothérapie développés à ce jour activent un groupe de cellules, lymphocytes, T-tueurs, qui peuvent identifier les cellules cancéreuses et par la suite injecter des granules toxiques à travers leurs membranes pour les tuer. Malgré plusieurs réussites remarquables, les résultats de l'immunothérapie demeurent cependant trop souvent en deçà des attentes, en particulier à plus long terme. En pratique, la régression tumorale observée dans les premiers stades du traitement est fréquemment suivie d'une récidive des tumeurs, dont les cellules cancéreuses sont largement résistantes aux traitements ultérieurs. Il est donc extrêmement important de mieux comprendre les raisons de ces limitations de l'immunothérapie si on veut améliorer le taux de succès de ces traitements. Échapper à l'immunité. La grande efficacité de l'immunité pour éliminer les corps étrangers crée une pression évolutive qui force les envahisseurs à trouver des moyens d'échapper à cette ligne de défense. Un bon exemple est la pandémie de COVID qui perdure en raison de l'émergence continuelle de nouveaux variants, toujours plus aptes à résister aux anticorps. Les virus sont très habiles pour déjouer l'immunité, mais les cellules cancéreuses sont vraiment dans une classe à part pour éviter d'être détectées et éliminées par le système immunitaire. On attribue généralement cette capacité d'évasion à la très grande instabilité génétique des cellules transformées, qui leur permet de générer très rapidement un grand nombre de mutations, pouvant leur donner de nouvelles propriétés d'immunorésistance. Cependant, ces facteurs génétiques ne sont clairement pas seuls en cause, car lorsqu'on analyse les gènes des cellules tumorales avant et après l'immunothérapie, de nombreux gènes qui codent pour les protéines reconnues par les lymphocytes T et utilisées par ces cellules pour tuer les cellules cancéreuses ne changent pas de manière significative et ne peuvent donc pas expliquer la baisse d'activité immunitaire. Cache-cache avec l'immunité. Selon une étude récente très novatrice, un autre facteur impliqué dans la résistance des cellules cancéreuses à l'immunité serait leur capacité à pénétrer à l'intérieur d'autres cellules cancéreuses. Ce nouveau phénomène, appelé entose, du grec entos, dedans, fait en sorte que la cellule cancéreuse envahit une cellule adjacente et peut ainsi se protéger des molécules toxiques sécrétées par les lymphocytes tueurs, en se cachant sous de nombreuses couches de membranes cellulaires. Selon les résultats de l'étude, les cellules des mélanomes des cancers colorectaux et celles des cancers du sein adopteraient cette stratégie en réponse à certains signaux moléculaires émis par les lymphocytes T-tueurs, les interférons gamma. Il semble que le blocage de ces signaux interfère avec le processus, ce qui pourrait ouvrir la voie à des traitements pouvant améliorer l'efficacité de l'immunothérapie. Les résultats de cette étude montrent que même si le cancer est un ennemi formidable, un maître incontesté de l'esquive, la recherche persévère et continue à comprendre les mécanismes qui sont responsables de son potentiel destructeur. L'immunothérapie est une approche thérapeutique relativement récente, et c'est grâce à ce type de recherche qu'on peut mieux comprendre ses forces et, ultimement, améliorer son efficacité. C'était « Comment le cancer échappe au système immunitaire », un texte de Richard Béliveau, paru le 24 octobre 2022 dans le Journal de Montréal.
Un feu d'artifice neuronal. Un texte de Philippe Mercure paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Lire active de nombreuses zones et de nombreux réseaux du cerveau. En voici quelques-uns. Réception d'informations. Le thalamus, qu'on peut décrire comme le centre de relais du cerveau, envoie les mots vers le centre visuel situé dans le lobe occipital. Décodage. Chez les lecteurs débutants, la région pariétale temporale de l'hémisphère gauche est utilisée pour briser les mots en différents sons appelés phonèmes. Le cerveau décode ce qu'il lit en associant chaque lettre à chaque son. Reconnaissance des lettres et des mots. Le centre visuel du lobe occipital est responsable de la reconnaissance des lettres et des mots. Chez le lecteur expérimenté, une zone spéciale appelée R de la forme visuelle des mots est utilisée pour reconnaître rapidement les mots sans devoir les décoder. Cette région a été originellement développée pour reconnaître les visages et réutilisée à d'autres fins pour la lecture, un phénomène appelé recyclage neuronal. Connexion entre le visuel et le langage. Chez les lecteurs expérimentés, les zones vouées au langage sont fortement impliquées dans la lecture, notamment l'aire de Broca, production de mots parlés, et l'aire de Wernicke, compréhension du langage. L'habileté de lire consiste essentiellement à créer un lien consolidé, une autoroute entre le centre du langage et le centre visuel du cerveau, dit Karen Cohen-Cazes. Compréhension du texte. La compréhension du texte s'effectue à l'aide du réseau temporo-pariétal frontal inférieur. Même le cortex moteur est sollicité. Par exemple, si vous lisez le mot « kiké », la région de votre cortex moteur associée au mouvement de la jambe sera activée. À cette étape, des réseaux entiers et sophistiqués sont impliqués. C'est le sommet du G7 dans votre cerveau, illustre Karen Cohen-Cazes. C'était « Un feu d'artifice neuronal », un texte de Philippe Mercure, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.